que ve shooting de
Gerard. Digo de Radio France Internationale.
Non, disso é com Cide.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction chinoise, Hermine Roumilak.
Mira.
Et Gelia Pevsner, de la rédaction russe.
Dobry večer.
À propos de la rencontre à Strasbourg entre Emmanuel Macron et le cinéaste Oleg Sentsov, récemment libéré. Natalia Olivares, également de la rédaction en espagnol.
Hola, Philippe.
Parce que, au Pérou, bien, le président Vizcarra est en pleine croisade anticorruption avec des actes forts pris cette semaine. Bonsoir à vous toutes. Avant cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine, à savoir le 70e anniversaire de la Chine populaire. Hermine Roumilak, de la rédaction chinoise, le gouvernement chinois n'a pas fait les choses à moitié. Il a même carrément mis les moyens pour que cela soit le plus impressionnant possible.
Oui, le régime chinois a fêté 60 ans de règne. Il a de quoi être fier parce qu'il a dépassé le 70 ans du Parti communiste soviétique qui était son grand frère. Hein. Donc voilà, la longévité est vraiment impressionnante. Donc les moyens sont vraiment impressionnants avec 15 000 soldats, 100 000 civils, des centaines de chars, des missiles de dernière génération, des avions de combat ont été passés en revue sur la place Tiananmen par le président Xi Jinping, qui est surtout le secrétaire général du Parti communiste chinois et le chef de l'armée. Donc c'est l'occasion aussi pour lui de récupérer tous les fruits de 40 ans de réformes économiques. Le défilé est déjà historique par sa taille. Cette démonstration à la fois spectaculaire et monotone a fait monter d'un cran la folie patriotique dans tout le pays. Donc on voit des messages comme « J'aime ma patrie mère, trop fière pour mon pays ». Tout ça, ça pleuve dans les réseaux sociaux. En apparence, mais seulement en apparence, je pense, le gouvernement chinois a atteint son objectif, c'est-à-dire de créer un engouement de loyauté pour le pays, pour le Parti communiste, mais aussi pour le président chinois. Mais que te cache dans l'ombre?
Expliquez-nous cela, vous vous posez un certain nombre de questions.
Hein. Mais en regardant le défilé, on ne peut pas s'empêcher de poser des questions. Des soldats presque robotisés, hystérie collective patriotique sur la place Tiananmen, la fierté nationale, que signifie-t-il? Pour qui ça va impressionner en fait? Pour impressionner qui? Si tout cela est si parfait comme ce qu'on voit à la télévision chinoise, et pourquoi Xi Jinping lui-même lance cet appel solennel dans son discours?
同志们，朋友们，前进征程上，我们要坚持。
Quelle est la teneur de cet appel?
Alors, il dit, camarades et chers amis, sur le chemin vers l'avenir, nous devons continuer à maintenir au pouvoir le Parti communiste. Il faut appliquer totalement le théorie de base et la ligne directoire du parti pour encore mieux améliorer la vie du peuple, etc., etc. En effet, le rêve de Xi Jinping, c'est de suivre la ligne autoritaire de Mao Zedong, dont il s'est déclaré déjà le fils spirituel en allant le jour avant la fête nationale s'incliner devant le corps momifié de l'ancien président. Donc il veut robotiser le peuple, tout le monde doit parler en une seule voix et avoir une seule pensée. Pour arriver à ce but, il faut surtout empêcher les gens de réfléchir librement. Donc, il faut les interdire, les censurer sur Internet, contrôler les dissidents, les intellectuels. Ils sont déjà muets hein, sur Internet. Et il y a partout la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale. Et tout ça, c'est pour détecter les moindres troubles dans l'ordre public.
D'ailleurs, à Pékin, lors de ce 70e anniversaire, le pays, en tout cas la capitale, était quasiment en état de guerre.
Oui, avant la défilée, la surveillance a monté d'un cran. Par exemple, les contrôles sont omniprésents, non seulement dans les hôtels, dans les métros, mais même dans les toilettes. Et les comptes des réseaux sociaux jugés dangereux ont été déjà fermés depuis longtemps. Et les comptes de quelques leaders d'opinion qui existent encore sont définitivement fermés. Et le jour d'avant le défilé, les habitants du quartier proche de place Tiananmen ont été privés de gaz jusqu'à la fin de festivités. Il faut qu'ils quittent leur habitation et se rassembler en bas d'immeuble avant 8h du matin. Et ils peuvent rentrer à la maison seulement à la fin du défilé. Et les hôpitaux ont annoncé qu'ils ne reçoivent plus de malades, etc., etc. La liste est encore très 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 longue.
Nathalie Olivares, vous nous dites qu'en Amérique latine, les relations avec la Chine sont au mieux en ce moment?
Alors c'est une réalité sur le plan économique, Philippe. Surtout, ces dernières années, on a pu voir les échanges commerciaux au plus haut point avec une coopération technologique, éducative, financière, comme un peu pour détrôner les États-Unis dans cette région, une guerre commerciale sans merci entre les deux puissances. On le voit surtout en Amérique centrale, avec des contrats avec le Panama, la République dominicaine et le Salvador. Depuis l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, la Chine a un boulevard en Amérique latine. Les exportations vers la Chine ont augmenté considérablement et le mandarin commence à être étudié dans les écoles et les échanges universitaires se multiplient. Et on a affaire là à un vrai rapprochement culturel croissant.
Un rapprochement qui suscite une grande nervosité, on va dire, du côté des Américains.
C'est
des
le mot, Philippe, oui, une nervosité qui se fonde sur un élément historique et culturel sur le continent. Les États-Unis ont toujours considéré l'Amérique latine comme un bastion et ses derniers investissements chinois prévus au Panama, par exemple, sont une menace pour l'influence de Washington. Dans sa nouvelle route de la soie, Pékin prétend faire mainmise sur le fameux et très stratégique canal de Panama, le canal de canal en anglais, je ne sais pas comment on dirait en chinois.
Panama,
désolé pour la prononciation. En tout cas, c'est le passage entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, c'est pas un secret. Une des voies commerciales les plus importantes du monde, cruciale donc à la fois pour Pékin et pour Washington. La Chine, par ailleurs, a octroyé des prêts faramineux. 60 milliards de dollars au Venezuela, 42 au Brésil, 18 à l'Argentine, etc., etc. Les États-Unis ont créé un vide qui s'accentue depuis notamment l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, et la Chine s'y engouffre. La crise politique à Hong Kong ne paraît pas avoir, en tout cas maintenant, pour l'instant, de répercussions négatives sur ce plan-là, sachant que parmi les contrats signés en Amérique centrale, par exemple, figurent des noms de grands groupes basés à Hong Kong, des sociétés qui détiennent, dans certains cas, certains ports stratégiques.
Vous nous dites que ce qui se passe en Amérique latine, c'est à peu près un copier-coller de ce qui se passe en Afrique.
On peut résumer.
Des investissements massifs des Chinois sur le continent.
Des grandes annonces. Oui.
Vous parliez, Natalia, de Hong Kong. Hermine, justement, pendant que la place Tiananmen était tout entière dédiée à la gloire du Parti communiste, le mouvement de contestation se poursuit à Hong Kong. Revenons à l'origine de cette contestation.
En fait, il faut dire que les Hongkongais ont fêté à leur manière cette fête nationale, que eux, ils appellent ça le deuil national, parce qu'ils ont considéré que c'est le Parti communiste qui a pris le pouvoir ce jour, il y a 70 ans, en fait, en Chine. Donc, en fait, Hong Kong a été éclaté en violence. Et le fait marquant, c'est un jeune homme qui a été tiré avec le balle réel par un policier. Donc, ça a suscité beaucoup d'émotions et de réactions. On revient à ce mouvement. En fait, ce mouvement est considéré comme la suite du mouvement de parapluie en 2014. Il est déclenché au mois de juin par le lancement de projets de loi très contestés, c'est-à-dire le projet de loi de l'extradition vers la Chine. En effet, selon la déclaration commune sino-britannique signée en 1997, la Chine promet d'assurer que Hong Kong pourrait profiter de la politique d'un pays deux systèmes pendant 50 ans de transition. À part la défense et la diplomatie, Hong Kong profite totalement d'une haute autonomie jusqu'à la juridique, même la juridique par rapport à Pékin. Mmh. Donc ce projet de loi est considéré comme une mainmise de fait du gouvernement central de Pékin sur Hong Kong. Donc pour les Hongkongais, c'est la fin de leur liberté et de la démocratie à Hong Kong.
Donc on voit des manifestations à Hong Kong. Il y a aussi un mouvement de contestation qui continue en Russie, à Moscou notamment, Gela Pevner. Il est soutenu par d'autres villes et d'autres régions russes. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire ?
Effectivement, on peut pas surprendre les Russes par les défilés militaires. Et donc, c'est les événements à Hong Kong qui intéressent plus les Russes. Les manifestants russes étaient très enthousiastes quant au premier succès des manifestants à Hong Kong. Et en même temps, un peu étonnés quant au faible éclairage des événements à Moscou par les médias occidentaux, surtout par comparaison avec la presse abondante reçue par les événements à Hong Kong. Et pourtant, les manifestations moscovites qui sont toujours très écrasé par les pouvoirs, il n'y a jamais beaucoup de monde parce que les gens ont peur. Cette fois, en 2019, on réunit un nombre de participants important et aussi important était le nombre des personnes arrêtées. Sans raison, juste parce qu'elles étaient sur place au mauvais moment, elles étaient condamnées à plusieurs années de prison et les répressions étaient très très violentes face aux marches pacifiques, face aux femmes et aux enfants et les procès de Moscou continuent. Tous les médias publics ou pro-gouvernementaux ont défendu la thèse comme quoi derrière les manifestations, aussi bien à Hong Kong qu'en Russie, il y a la main des USA. Et c'est d'ailleurs la position de la Chine. Il y a une multitude d'articles en Russie qui soutiennent cette position, ainsi que des différentes théories complotistes qui analysent les événements de ce point de vue.
Merci à vous pour cette situation à Hong Kong. On va d'ailleurs en parler un petit peu dans un instant. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
This is Radio France International.
Paris, RFI,
$1,000.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Déportons-nous donc à Hong Kong, qui n'en finit pas, cette contestation n'en finit pas, avec parfois des manifestations violentes. Hermine, pourquoi est-ce que les jeunes restent-ils toujours autant mobilisés semaine après semaine?
Oui, vous avez remarqué ça. En fait, Hong Kong, pour tout le monde, c'est une ville économique. Elle est très riche, très prospère et ouverte. Mais on a tendance à oublier que Hong Kong est la seule ville chinoise qui continue à commémorer chaque année le massacre de Tiananmen. Chaque année, en fait. Donc, c'est la ville qui offre aussi l'accueil à tous les réfugiés chinois du continent. Et les jeunes qui sont nés à Hong Kong vivent dans la liberté. Ils connaissent la démocratie, mais le régime communiste est de plus en plus présent. Leur font peur parce qu'ils voient que leur liberté et leur démocratie sont en train de partir en poussière, en fait. Mais ce projet de loi d'extradition est sans doute qu'une goutte d'eau qui a provoqué le tsunami. La plaie est déjà très, très profonde. Et voici le cri d'un jeune manifestant en 2014. Ça veut dire beaucoup de choses.
Alors, aidez-nous à bien comprendre ce qu'il dit, parce que c'est pas évident, hein.
Il est en train de crier que nous sommes en train de lutter pour notre avenir. Notre avenir ne peut être décidé que par nous-mêmes. Donc c'est très très émouvant et avec beaucoup de cœur en fait. Donc cette année, si ce mouvement de contestation provoqué par ce projet de loi de l'extradition, en fait la revendication profonde des jeunes n'ont pas changé. L'artiste hongkongais Casey Wang m'a expliqué tout ça.
Alors, quelle est la raison de son engagement?
En fait, il pense que dans la situation actuelle, les jeunes de Hong Kong ne voient pas de perspective. Il y a une sorte d'impuissance face à la position dure du gouvernement central et de Hong Kong. Beaucoup de jeunes étaient des collégiens en 2014. Ils ont grandi maintenant, mais rien n'a changé. Pour eux, leur avenir est terrifiant, sans issue. C'est pour cela qu'ils luttent.
Alors, on a des jeunes chinois qui manifestent leur loyauté envers le Parti communiste cette semaine, pas loin de la place Tiananmen. On a des jeunes à Hong Kong qui réclament, eux, liberté et démocratie. C'est un vrai contraste. Pourquoi est-ce qu'ils sont si différents, ces jeunes chinois?
Oui, la même culture fait deux plantes complètement différentes. En fait, j'ai posé la même question à un écrivain hongkongais, Monsieur Ma Gafei. Voici sa réponse.
Alors, que dit-il?
En fait, il dit que quand il parle avec les jeunes chinois, il entend très souvent les mots comme certainement, sûrement, sans aucun doute et nécessairement. Pour les choses qu'ils ne connaissent pas, ils ont déjà une réponse dans la tête. Quand la réalité ne correspond pas à leur pensée, ils sont angoissés, ils ne savent pas quoi faire. Mais les Hongkongais posent souvent les questions comme pourquoi pas? Et aussi, si c'est pas hors la loi, pourquoi je ne peux pas?
Voilà donc pour la situation à Hong Kong. Je rappelle qu'on peut lire tout ça bien évidemment sur le site internet de RFI parce que on ne peut pas écouter Radio France Internationale en Chine. C'est bien ça, Hermine?
Oui, c'est censuré.
Hermine Roumilac de la rédaction chinoise de RFI. Quant à la rédaction en espagnol, elle s'est particulièrement intéressée à la crise politique qui secoue actuellement le Pérou. L'affaire Odette Brecht est un scandale de corruption qui entache toute la classe politique alors que le président a déclaré la guerre contre les dirigeants politiques corrompus. Nathalie Olivares, rappelez-nous ce qui s'est passé cette semaine à Lima.
On va y aller jour après jour. Lundi.
Oui. Allons-y.
Lundi, le président Martin Vizcarra décide de dissoudre le Parlement contrôlé par l'opposition fujimoriste et qui bloquait des réformes de fond pour assainir justement le terrain politique. La majorité de la droite héritière de l'ex-président Alberto Fujimori répond en votant la suspension du président pendant un an. Il l'accuse d'être inapte à gouverner et le remplace par une des leurs, la vice-présidente Mercedes Arauz. Mardi, après avoir prêté serment, celle-ci démissionne, surprise, et des milliers de manifestants soutiennent l'action du président devant l'enceinte même de l'Assemblée.
Ce qui est donc une première victoire pour le président péruvien, mais ça ne s'arrête pas là.
1-0 pour le président péruvien. Mercredi, donc, le président reçoit le soutien des chefs militaires, des gouverneurs et des maires. Les élections anticipées sont donc confirmée et fixée. Deuxième revers contre une opposition qui domine la vie politique mais qui se trouve coincée par les affaires de corruption. Keiko Fujimori, la fille donc de Alberto Fujimori, gère ses équipes à distance car elle est en prison préventive actuellement depuis presque un an. Le champ des Fujimori est en pleine déliquescence, décrié par l'opinion publique. Jeudi, Philippe, un gouvernement est nommé avec 9 nouveaux ministres, dont 8 femmes.
Et le président avance donc à grands pas dans un pays où la chef de l'opposition est en prison et où 4 anciens présidents doivent être jugés.
Presque un sans faute pour le président Vizcarra. Il a le vent en poupe dans un décor chaotique. Les Péruviens en ont marre d'avoir une classe politique sclérosée. On rappelle que l'actuel président remplace lui-même Pablo Kuczynski, qui lui-même avait démissionné, rattrapé par l'affaire Odebrecht, que vous mentionnez, Philippe. En tout cas, 4 ex-présidents sont en attente de jugement. L'un d'entre eux, Alejandro Toledo, a pris la fuite aux États-Unis et un autre, Alan Garcia, s'est suicidé il y a quelques mois avant d'être arrêté, soupçonné lui aussi d'avoir blanchi de l'argent dans l'affaire Odebrecht.
Et on arrive à vendredi, dans cette semaine cruciale à Lima.
Vendredi, eh bien, les Péruviens attendent les déclarations du représentant au Pérou de la société Odebrecht, Jorge Barata. Il doit comparaître devant la justice brésilienne et il devrait donner plus d'une soixantaine de noms impliqués dans le scandale. Odebrecht, c'est un nom donc de l'entreprise de bâtiment brésilien, réseau tentaculaire qui aurait financé des campagnes politiques de nombreux dirigeants politiques et ce dans toute la région d'Amérique latine, de gauche comme de droite.
Et votre correspondant à Lima, Carlos Noriega, résume plutôt bien la situation. On l'écoute.
S'espera que Barata révèle las identidades de 71 políticos y funcionarios.
Alors il dit que ferait-on sans nos correspondants. Il nous explique donc cas par cas, le représentant d'Odebrecht pourrait dénoncer cette fin de semaine en tout 71 politiques qui auraient bénéficié des affaires frauduleuses d'Odebrecht sous un pseudonyme. Donc il va falloir faire une relecture des pseudonymes et voir à qui correspondent ces noms de code. Parmi eux, il pourrait y avoir des députés en exercice et donc les manœuvres politiques des députés pour bloquer les réformes mettraient en péril certains députés qui pourraient être en exercice actuellement.
Nathalie Olivares de la rédaction Amérique latine de RFI. À Strasbourg se déroule la session du Conseil de l'Europe, l'institution qui fête son 70e anniversaire. Et c'est la première fois que la Russie participe de nouveau à ces débats, depuis qu'elle a été privée de ce droit en 2014, suite à l'annexion de la Crimée. Alors, Gélia Pesner, de la rédaction russe, comment s'est déroulée cette réintroduction de la Russie au sein du Conseil de l'Europe?
Le Conseil de l'Europe a effectivement privé la Russie de droit de vote en 2014, mais en 2019, la Russie était rétablie dans ses droits. Ça a été très critiqué par l'Ukraine, la Géorgie et plusieurs autres pays limitrophes qui soulignaient le fait de l'annexion de la Crimée et le fait que cette question n'a toujours pas été réglée. L'ordre du jour de cette session était validé le 30 septembre, et comportait la question des répressions des manifestations à Moscou. Finalement, face au mécontentement de la délégation russe, le statut des débats a été changé, qui fait que aucun rapport ne sera publié à la fin. En plus, les débats n'ont pas été très populaires, il faut le dire. Même pas la moitié des députés ont voulu participer et pourtant, plusieurs députés ont condamné l'attitude de la Russie et la violence du Kremlin vis-à-vis de sa population. Et parmi eux, il y avait des voix françaises, dont Bertrand Bouyx, député En Marche.
Nous condamnons avec la plus grande fermeté la répression particulièrement violente de cet été dans les rues de Moscou, d'autant que ces actions furent commises après la réintégration de la Fédération de Russie au sein de notre Assemblée.
Le président Macron était à ce Conseil de l'Europe, il a prononcé un discours. Il a également rencontré le cinéaste Oleg Sentsov, récemment libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers ukrainiens et russes. De quoi est-ce qu'ils ont parlé, Galia?
Ils ont surtout parlé des prisonniers qui restent encore en captivité.
Ils ont fait l'accent sur les prisonniers.
Voilà, il dit qu'il y a encore en prison les Tatars de Crimée qui sont là juste pour leurs préférences religieuses, accusés d'extrémisme.
Donc, Sentsov a pu rencontrer Emmanuel Macron, ce qui est important.
C'est une figure emblématique de cette annexion de la Crimée. Il était condamné pour 20 ans de prison.
Et il en a fait 5. Merci à vous, Gélia Pesner, pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. C'était Accent du Monde sur RFI, Radio France Internationale.